On a l'impression quand même, et c'est un peu le constat qu'on avait fait avec Stéphane Le Bouler, avec Jean-Paul, avec les gens des électrons, et puis l'Observatoire, c'est que on a un peu peur que la santé soit oubliée dans cette campagne électorale au profit d'un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes pour certains importants, mais pour d'autres qui sont un peu parasites et qui détourneraient le regard des vraies aspirations des Français. Sur le devenir de la société. Il y a une étude qui a été faite par Via Voice qui montre que, à l'heure actuelle, la santé, c'est entre la première et la deuxième préoccupation de tous les Français. Et ce serait quand même dommage qu'au bout du compte, on n'ait pas la possibilité d'avoir des candidats qui s'engagent sur quelque chose d'important. C'est d'autant qu'on peut toujours continuer à mettre de l'argent et des moyens sur le système de santé, l'hôpital et tout ça. Mais si c'est pour avoir un résultat, une efficience à la hauteur de ce qu'on a, sauf en cas de crise, et il faut souligner encore une fois l'effort extraordinaire qu'ont pu faire les différentes personnes qui ont été impliquées dans la gestion de la crise, on a un peu l'impression que c'est le tonneau des Danaïdes. Donc il va peut-être falloir changer de concept et de trouver des idées nouvelles. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important que les quatre think tanks se mettent autour de la table et qu'on puisse réfléchir à un certain nombre de questions. Donc là, on est sur la première question ce soir, qui est celle des territoires en santé et du lien ville-hôpital face à la désertification. Alors la désertification, surtout quand on est élu local, dans des petits coins, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement une désertification médicale, hein. Si on avait que la désertification médicale, ce serait déjà pas mal, mais on a aussi la désertification de l'État, on a une désertification économique. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et je pense que sur un territoire, la santé, ça fait partie des phénomènes d'attractivité, mais ça ne doit pas être considéré comme simplement une partie de la désertification, ça doit être quelque chose de plus global. Et donc chaque think tank va avoir maintenant 5 minutes, on va dire, s'il faut un peu plus, il n'y a pas de problème, pour pouvoir exposer son point de vue. Son mode de réflexion et qu'on puisse ensuite partager et que chacun puisse, dans un deuxième temps, donc si on donne 5 minutes à chacun des think tanks, qu'on puisse avoir ensuite une heure à peu près pour pouvoir en débattre. Et la règle serait assez simple, c'est que chacun veut poser une question et lève la main. Vous avez dans votre barre d'outils, vous avez la possibilité de lever une petite main jaune. Et donc, on pourra ainsi poser les questions qui sont reliées aux présentations de chacun. Moi, j'ai envie de passer la parole tout de suite à Lisa. Est-ce que Joy, vous voulez nous faire part de la position de Lisa par rapport à cette question et des propositions que vous pouvez faire par rapport à tout ça? Ah, on ne vous entend pas. Là, vous êtes en mute. On a un petit problème. Germain, Et vous n'êtes pas en mute. Ah, on a un problème. Alors, Germain va voir avec vous. Et pendant ce temps-là, on va passer la parole à ce moment-là au CRAPS. Jean-Paul. Et puis on reviendra à Lisa juste après. Désolé, c'est juste un problème technique. On va pouvoir régler facilement. Mais ça va bouleverser un tout petit peu l'organisation. Mais Joy, vous en faites pas, vous passez pas votre tour. Voilà.
Attendez, c'est bon.
Jean-Paul, c'est parfait.
C'est bon.
La parole est à toi.
C'est gentil, merci. D'abord, très content de se retrouver et de partager ces quelques éléments de réflexion. C'est d'autant plus important que vous savez que le CRAP, on a toujours cette définition qui est de dire que la santé avec la protection sociale, c'est le volet social du pacte républicain et qu'il est donc nécessaire qu'il y ait un débat. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure de manière. Ce que Benoît aussi a affirmé, c'est qu'il y a deux risques dans le débat actuel. C'est comme on approche les élections, on risque d'entendre plus de slogans que de réalité, de terrain. Alors l'exemple le plus classique, vous avez vu que j'ai fait paraître avec le CRAPS sur le pourcentage du personnel administratif dans les hôpitaux, 34%, on raconte n'importe quoi. Et puis plus c'est gros, plus ça passe. Et donc notre rôle de tous, c'est de temps en temps de dire attention, ne mélangez pas tout. Il y en a trop, oui, mais on n'est pas 34. On n'est même pas à 12. La deuxième, c'est que l'idéologie où chacun tire sa couverture vers soi, et c'est là la réflexion qu'on apporte au CAP, c'est qu'on ne résoudra pas ce problème en n'ayant qu'une seule solution, en allant tous soit vers l'hôpital à 100%, soit vers la médecine libérale à 100%, et qu'il va falloir travailler. Alors nos réflexions du CRAPS se font apparaître dans les différents ouvrages que l'on a parus, qu'il y a trois axes de réflexion indispensables. Le premier, c'est, on le voit apparaître avec le Covid, c'est le territoire de santé apparaît être un territoire émergent. Là, vous entendez ma petite fille qui est en train d'arriver vers me voir. Et attendez, mon épouse s'en occupe, voilà. Ça, c'est les joies du direct, vous voyez. C'est les joies du direct. Elle a vu que papy, vous voyez. Donc, l'intérêt du territoire, c'est de voir quel niveau de territoire on se situe. Le deuxième, c'est on ne répondra pas à la question par un simple développement de l'offre. Croire que l'augmentation du numerus clausus va lui-même régler ce problème, c'est une erreur. Et on pourra le développer. Et la troisième, c'est qu'il faut reconstruire, on va peut-être développer un peu plus dans les questions, il faut reconstruire la notion de compétence. Le débat n'est pas d'avoir à proximité une présence d'une structure. Le débat, c'est d'avoir des gens qui répondent aux besoins et au niveau des compétences. Et moi, je vous donne des exemples qui sont relativement concrets, qu'on vit tous les jours en milieu rural. Puisqu'étant jeune retraité, je bénéficie de cette joie d'être en milieu rural une partie de ma vie professionnelle. Aujourd'hui, un médecin qui s'installe dans une commune, en 3 semaines, 1 mois, il a son carnet d'adresse qui est plein pour l'année. C'est-à-dire qu'il ne peut plus répondre à la fois aux urgences, à la fois aux débats. Et on voit que ça remet en cause pas mal de concepts, comme le concept de paiement à l'acte, enfin, je veux dire. Et de la même façon que mes jeunes collègues directeurs d'hôpitaux qui sont aujourd'hui en charge de la gestion des hôpitaux me disent qu'aujourd'hui, pour avoir des médecins à l'hôpital, il vaut mieux qu'ils travaillent sur des profils de temps partiel que de temps plein. C'est plus facile à obtenir. Donc, vous voyez qu'il faut essayer de remettre à une nouvelle analyse tous ces liens de statut, de contrat, de travail avec de temps partiel et de temps plein. Je pense que sans vouloir exagérer, mais qu'il va falloir donner plus de place au temps partiel qu'au temps plein aujourd'hui dans la relation entre la ville et l'hôpital. Voilà ces trois axes de réflexion qui sont, je répète, le territoire. Deuxièmement, attention de ne pas confondre la réponse à des besoins qualitatifs par une simple réponse quantitative, augmente le numerus clausus. Il y a autre chose, il y a les nouveaux métiers, etc. Et puis, les liens entre l'hôpital et le monde libéral doivent se conjuguer en dehors du schéma classique temps partiel et vacations détachées. Il faut qu'on revoie un peu ce système-là. Voilà quelques réflexions qu'on a à avoir pour lancer le débat. Après, j'en ai d'autres, mais j'ai déjà dépassé mon temps. Et encore, mille excuses pour la petite fille que vous avez entendue.
C'est vivant.
C'est ça la vie. La vie, c'est aussi d'avoir des petits-enfants et j'attends d'en avoir. J'espère que j'en aurai bientôt. Voilà. Message personnel à mon fils qui n'est pas branché. Alors.
Mais ça n'en fait pas grand-chose, mon cher Olivier. Non,
tout à fait. Mais ces trois notions sont des notions qui sont importantes et je crois qu'on va pouvoir y revenir parce que j'ai l'impression que. Comme ça, je suppute que ça va rejoindre un certain nombre de choses qui sont partagées par d'autres think tanks. C'est ça aussi qui est très intéressant dans ce débat, c'est qu'on s'aperçoit qu'on réfléchit sur les mêmes occurrences. Est-ce que Joy a la possibilité de se connecter ou pas? Parce que je sais que Germain est en train de... Joy, si vous nous entendez, ce qui serait peut-être bien, c'est que vous mettiez dans le chat, votre numéro de téléphone portable que Germain puisse vous appeler pour voir
est-ce
si on peut
vous,
pas...
Vous m'entendez ou pas du tout?
Très bien.
Ah, ça y est, super.
Ah, ouais. C'est parfait, je suis très contente.
Joy, vous avez 5 minutes pour nous expliquer la position de Lisa par rapport à ces questions de territoire de santé, de lien ville-hôpital.
Oui, alors déjà, je vous remercie, je suis ravie d'être parmi vous et je trouve que cette entreprise est très intéressante. On a effectivement travaillé sur le thème de l'accès aux soins et de l'aménagement du territoire, ce qui est ma spécialité en tant que géographe de la santé. Et ce que je pensais aussi tout d'abord évoquer comme thème, c'est ce que nous apprend la littérature internationale et française concernant les déterminants du choix d'installation des médecins. Parce que finalement, on en revient toujours à cette question-là et on a travaillé dans ce sens-là. Et il y a plusieurs éléments qui nous paraissent clés. Tout d'abord, le choix de l'installation, ce que l'on apprend, c'est que le choix de l'installation se fait en fonction d'un ensemble de facteurs personnels. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, ce sont souvent les attaches familiales, amicales, les liens avec l'enfance et la qualité du cadre de vie. Puis, le choix de rester ou de partir ensuite quelques années plus tard est également lié fortement à ces facteurs personnels. Il y a également les conditions d'exercice sur lesquelles nous avons travaillé qui interviennent dans le choix et notamment chez les plus jeunes pour ce qui est de l'exercice coordonné puisqu'ils souhaitent maîtriser la charge de travail, avoir la possibilité de s'absenter pour des congés, de travailler de manière coordonnée avec d'autres professionnels de santé et pouvoir mener un projet collectif sur le territoire. Et donc, ce qui est intéressant à travers ces éléments-là, c'est que le facteur de la rémunération est important, mais reste secondaire par rapport au choix du lieu. Et ce n'est qu'un élément par rapport à l'épanouissement professionnel et personnel. Donc, ça nous éclaire finalement sur les aides financières à l'installation et au maintien des libéraux, à travers notamment les zonages conventionnels, qui sont les aides les plus utilisées, les plus mobilisées, mais où finalement, on a assez peu d'évaluation en termes de performance, assez peu de retours, et on entend dire que les effets sont plutôt décevants et peu marqués. Et à mon avis, c'est aussi l'une des conclusions de Lisa, c'est qu'il faut insister sur l'évaluation des mesures déjà prises depuis quelques années pour voir si on va dans le bon sens ou pas. Donc, il faudrait, d'après la littérature internationale aussi, il faudrait un niveau de rémunération dans ces zones enclavées beaucoup plus élevé pour compenser les désagréments perçus par les professionnels de santé libéraux, que sont ce que je viens de citer, la charge importante de travail, le manque de remplaçants, les nombreuses permanences de soins, etc. Ensuite, petite parenthèse, on parle beaucoup de la féminisation de la profession aussi, et à mon sens, ce n'est plus tellement pertinent. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est parler davantage des mutations profondes, des aspirations de la jeune génération, hommes et femmes, à espérer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ça, c'est plus pertinent finalement que de parler de féminisation de la profession et de ses conséquences sur l'offre de soins. Un autre point qui est important en termes de choix et qui a été assez éclairant, c'est la formation initiale. Et donc, Lisa, là-dessus, a mené beaucoup d'études intéressantes. Et on peut on sait que la formation initiale est un levier important pour contribuer à orienter un étudiant à choisir à la fois la médecine générale et à s'implanter dans des territoires enclavés ruraux. Donc, tout d'abord, elle permettrait d'augmenter, on le sait, les capacités de formation, c'est-à-dire de répondre à un manque global d'effectifs sans garantie d'un rééquilibrage sur les territoires, puisque en fait, en augmentant le nombre de médecins, on espère qu'une fois que les villes sont bien pourvues, les médecins vont s'installer en zone rurale ou périphérique, mais ça, on sait bien que ça n'a pas toujours été démontré. Et l'OMS, en fait, dans son rapport de 2010, préconise de sélectionner des étudiants admis en école de médecine issus de territoires où l'accès aux soins est en difficulté. Et pour cela, l'OMS préconise de créer des lieux de stage spécifiques et des contenus adaptés à la médecine en milieu rural. Ça, c'est une vraie piste. Mais alors, il y a aussi une contradiction qu'il faut soulever, c'est que en France, il y a un souhait d'améliorer la compétitivité des territoires à l'échelle internationale, ce qui engendre aussi donc des politiques d'aménagement qui incitent fortement à la concentration des établissements d'enseignement et de recherche. Et donc, généralement, ces établissements sont situés dans des métropoles pour accroître leur visibilité. Donc là, il y a un challenge en aménagement du territoire entre favoriser les espaces ruraux et finalement cette volonté de compétitivité à l'échelle internationale. Autre élément qu'on connaît bien, nous, les géographes, en termes d'aménagement du territoire, ce sont toutes les caractéristiques propres au territoire qui influencent également le choix du lieu d'exercice. Donc là, il s'agit du degré d'attractivité du territoire auquel le professionnel de santé sera sensible. Et vous connaissez tous le marketing territorial qui est très fort avec des publicités sur tel ou tel territoire pour créer une synergie positive entre les dynamiques démographiques et les dynamiques des services et des équipements, puisqu'on sait que les deux sont entremêlés et sont fortement dépendants. Donc, le déclin de l'un entraîne le déclin de l'autre, et c'est ce que vous avez rappelé, Olivier Mariotte, en début de séance. Et par exemple, j'accompagne plusieurs professionnels de santé dans la création de leur CPTS, et dans le Tarn, ils étaient 12, et bientôt, ils ne seront plus que 5. Donc, dans un bassin de vie comme ça, je vous laisse imaginer les conséquences en termes aussi d'aménagement du territoire et l'effet boule de neige que ça entraîne. Et le problème, c'est que les professionnels de santé souhaitent exercer dans des territoires avec des possibilités d'emploi pour le conjoint, on le sait, des équipements scolaires et si possible d'enseignement supérieur, mais aussi une vraie vie culturelle avec une présence de loisirs. Et ça, c'est des points très importants. Et donc, ce qu'on a mis en évidence avec Lisa à ce niveau-là, c'est que ça veut dire quoi une politique d'attractivité des territoires ? Ça veut dire finalement mettre en concurrence les territoires. Et mettre en concurrence, c'est produire de l'hétérogénéité et des inégalités spatiales sur les territoires, et donc également en matière d'offres de soins. Donc là encore, il y a un paradoxe qu'il faut régler, qu'il faut souligner à ce niveau-là. Donc tout ça nous montre qu'en fait, les déterminants du choix du lieu d'exercice sont bien évidemment multifactoriels, et que les politiques incitatives financières pour favoriser l'installation et le maintien des professionnels doivent être associées à un ensemble de mesures. Et c'est ce que nous apprend la littérature aussi, c'est qu'une seule mesure ne suffit pas et qu'il faut qu'il y ait une démarche cohérente avec un panel de mesures efficaces. On a assez peu d'évaluations sur la pertinence des méthodes coercitives. Contraignant un médecin à s'installer en zone sous-dotée. On a étudié ça au niveau de l'Allemagne et du Québec. Mais ce que je peux dire avec mon expérience, puisque je suis quand même spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de santé libéraux, c'est qu'on s'aperçoit vite, en les écoutant, que les étudiants privilégient déjà les autres spécialités médicales. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont mieux rémunérées. Ils travaillent moins par semaine. Hein. Quand un médecin généraliste est à 70 heures par semaine, le spécialiste est en moyenne à 50 heures. Et bien sûr, il y a beaucoup de spécialités différentes, mais voilà ce qu'il en est. Ils apprécient également de travailler sur des plateaux techniques, des beaux plateaux techniques neufs et souvent implantés en milieu urbain et périurbain. Et donc, que va faire la coercition par rapport à ces gens-là ? Eh bien, tout simplement, ils vont continuer à désaffecter la médecine générale et préférer un exercice salarié plutôt que du libéral et préférer d'autres spécialités. Donc, je pense que ce n'est absolument pas la bonne solution et ce n'est pas pertinent, cette coercition-là dont on entend de plus en plus parler. Et d'ailleurs, la littérature internationale n'a pas su démontrer leur efficacité, notamment sur le long terme. Voilà, donc en fait, ces incitations existantes doivent s'inscrire dans une démarche globale, comme on l'a dit, en inscrivant aussi des modalités organisationnelles. Et si vous le souhaitez, je peux détailler très rapidement, ce que sont les MSP et les CPTS, puisqu'on en entend beaucoup parler. Et ce sont des modalités attractives sur les territoires, notamment pour les moins de 40 ans. Plusieurs études ont montré que c'était des facteurs décisifs dans le choix d'implantation. Donc, très rapidement, les MSP, ce sont des maisons de santé pluriprofessionnelles. Elles ont été largement plébiscitées depuis une dizaine d'années. En 2018, il y en avait 3 millions de patients qui ont été pris en charge par les 13 000 professionnels de santé exerçant dans à peu près 700 maisons de santé pluriprofessionnelles. Et en 2019, l'assurance maladie a versé à peu près 63 000 euros en moyenne à chaque MSP. Ça vous donne une idée de ce montant du financement. Alors, les avantages de cette structure, c'est que c'est une structure groupée pluriprofessionnelle et qui permet d'augmenter la taille de la file active ainsi que le nombre des patients inscrits par médecin traitant. Ça, c'est intéressant dans des territoires ruraux enclavés. Elle favorise la coopération entre le secteur sanitaire, médico-social et social. Et l'exercice. Oui.
Si je peux me permettre, je crois qu'on est, un public un peu averti.
Oui. Donc,
je pense que sur CPTS et MSP, on est voilà.
Parfait.
Autrement, j'ai peur d'une chose, c'est que si on réexplique le concept, on va se retrouver dans une difficulté temporelle pour pouvoir arriver à manager. Mais par contre, si on a des questions ou si les différentes personnes qui sont présentes ont des questions sur CPTS et MSP, je vous repasserai la parole à ce moment-là pour que vous puissiez y répondre. Ça vous dérange pas ?
Non, je vous en prie. Ce qu'on peut simplement dire en conclusion, surtout des CPTS, puisque c'est le mode d'exercice qui est actuellement plébiscité, c'est qu'elle génère un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on passe de la gouvernance en santé où le médecin s'implique dans les politiques publiques, passant d'une logique de patientèle, qui est centrée sur un cabinet médical en fait, hein, à une logique populationnelle intégrant l'ensemble du territoire. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important, où on part de la base et où les professionnels de santé s'impliquent assez fortement. Et ce qu'on peut dire aussi de manière très, très brève, c'est que lors du Covid-19, lors de cette crise, les retours d'expérience des MSP ont montré qu'elles ont su quand même répondre de manière assez efficace à la crise sanitaire. C'est-à-dire que même si les CPTS étaient à l'état de projet, eh bien en fait, les professionnels de santé ont su assez rapidement se mobiliser pour organiser la gestion de la crise sur leur territoire, gérer notamment des centres de dépistage avec des drives, le suivi des patients à domicile avec les infirmiers et les médecins, le matériel et toutes les questions organisationnelles assez précises. Voilà ce qu'on peut dire. Et je voulais en venir au point de la coordination ville-hôpital, qui est le thème de notre... de notre étude aussi, et c'est voilà, simplement pour dire que les CPTS aussi sont un mode donc attractif et qui a permis une accélération de la coordination ville-hôpital et des nouveaux partenariats qui se sont créés avec les collectivités territoriales. Voilà ce qu'on peut dire. Et je voulais aussi vous dire on m'a dit que j'avais à peu près 15 minutes, 20 minutes de temps de parole.
Non, c'était 5 minutes.
D'accord, donc je vous prie de m'excuser pour avoir un petit peu débordé.
C'est très intéressant de toute façon.
D'accord, parfait. Et peut-être une ligne en conclusion de ce que je souhaitais vous dire, c'est que ce qui est important lorsqu'on étudie soit le choix d'implantation ou bien les modes d'exercice coordonnés, il faut absolument insister, on l'a dit à Lisa, sur la pertinence de ces actions et les modes d'évaluation de ces actions-là. Et quel indicateur est-ce que l'on doit choisir? Et c'est vraiment très politique pour mesurer les impacts de ces effets. Voilà, je vous remercie.
Alors, c'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs questions déjà qui sont passées dans le chat, en particulier savoir si on peut avoir les études et tout ça. Je crois que dans le compte-rendu, si vous avez des éléments faits par Lisa justement sur ces points-là, n'hésitez pas à nous les transmettre, on les fera figurer dans le compte-rendu pour qu'on puisse les partager ensuite avec toutes les personnes qui, si vous souhaitez que Lisa puisse s'exprimer comme ça, c'est avec plaisir. Alors, je vois que Benoît et Vincent, Benoît surtout fait part d'une profonde impatience. Mais c'est son côté trépidant, ça, de prendre la parole. Donc, Benoît et Vincent, pour les électrons, la parole est à vous.
Et d'abord à Vincent.
Ok, bah écoutez, d'abord, merci à tous. On va essayer de faire effectivement court et d'être surtout très concret. Nous, on est parti d'un constat, c'est que le système du médecin traitant aujourd'hui est arrivé aujourd'hui complètement à bout de souffle. Ça ne marche plus. C'est simple, il y a plus de 5,5 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant et qui n'en trouvent pas. Et si on rajoute, il y a à peu près 7,5 millions de Français qui n'ont pas de généraliste près de chez eux, ça montre que ce système ne fonctionne plus aujourd'hui. La solution, c'est donc de développer des alternatives à ce médecin traitant. Comment ? Eh bien, l'idée qu'on propose, nous, c'est qu'en cas d'impossibilité de trouver un médecin traitant disponible, c'est que chaque assuré social puisse désigner son propre référent santé. C'est-à-dire que ça se ferait sur la base, sur le principe d'un double choix libre et éclairé. L'usager de santé choisit son référent de santé, qui lui-même accepte et s'engage en retour à remplir un certain nombre de missions sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Alors, qui seraient ces référents santé possibles? C'est évidemment en premier lieu le pharmacien, qui est le plus proche, mais également des infirmières et en particulier des IPA. Vous pourrez imaginer aussi, pourquoi pas demain, des kinés, des psys, des diététiciens, toutes sortes de paramédicales.
Ça peut être des médecins aussi.
Oui, c'est lorsqu'on n'a pas de médecin, quelle solution alternative évidemment. D'accord. C'est en plus. C'est pas à la place. Ça peut être à la place. Encore une fois, c'est une histoire de libre choix. Quelle serait donc ensuite leur mission? Eh bien, en fait, il s'agirait à la fois de coordonner la prise en charge, d'orienter vers d'autres professionnels de santé, de faire le suivi des pathologies chroniques, d'observance des traitements, des dépistages, la prévention, des conseils nutritionnels. Bref, en gros, tout ce que fait le médecin traitant en dehors du diagnostic, qui resterait dévolu au monde médical. D'autant plus que, dans les faits, une partie importante de ces actions sont déjà faites, notamment par des pharmaciens. En fait, quelle serait la rémunération, puisqu'il faut bien parler d'argent, et bien, l'idée que ce serait sur le même principe qu'un médecin généraliste, c'est-à-dire par patient, par forfaitisation, l'idée étant qu'au final, ça coûterait peu cher, voire pas plus cher, même moins cher qu'un médecin traitant. Je laisse maintenant la parole à Benoît pour la deuxième proposition. Merci.
Oui, on a essayé d'être le plus concret possible et de trancher sur la question des contraintes et de et des incitations. Et certes, on a bien entendu, et c'était très intéressant, à la fois par le Krafs et l'ISAD, qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'évaluations sur les mesures. Il n'empêche que, politiquement, il nous semble absolument impossible de ne pas répondre à la question de la contrainte pour l'installation médicale. Donc, ce qu'on propose est relativement simple. C'est en partie déjà mis en place, mais il faudrait le généraliser. C'est de faire un zonage en trois catégories assez simples. Une zone surdotée, des zones dotées correctement et des zones sous-dotées. Il faudrait que le zonage soit fait par l'ARS avec avis conforme de la région et de la sécurité sociale. Et sur chacune de ces trois zones, on met trois types d'outils. Sur les zones surdotées, on interdit l'installation pendant 5 ans, sauf en cas de départ d'un praticien. En zone correctement dotée, on laisse les choses le plus normalement possible, sauf qu'on met des obligations de service public pour les médecins qui sont là, et notamment la possibilité qu'ils fassent des consultations délocalisées. Alors ça, c'est certes dans les zones sous-dotées. Ça, c'est plus quand on est dans des zones périurbaines que rurales, mais ça, c'est toutefois très important, puisqu'on a vu, et les géographes de la santé nous ont montré qu'il y avait beaucoup de zones sous-dotées à l'intérieur même de territoires qui pouvaient être bien dotés. Et puis enfin, pour les zones sous-dotées, eh bien, il faut accentuer les aides en pensant aux aides au logement dès la période de stage, qui n'est pas bien traitée dès aujourd'hui. Ça, on l'a vérifié auprès d'étudiants en médecine. Ensuite, les aides financières, mais ça c'est déjà fait avec installation, comme l'a dit Joy Renault, dans une MSP, ça c'est la condition. Et puis ensuite, sur la base de ce qui a été fait au Québec depuis très longtemps, un tarif des consultations surcoté. On a proposé 20%, mais s'il faut faire plus, on le fera. Toujours dans un laps de temps limité pour que ce soit éventuellement, pour que ce soit d'abord évaluable et ensuite éventuellement réversible. Voilà, devant déjà les trois premières interventions, les deux premières interventions, je crois qu'il nous faut peut-être ajouter une troisième mesure, mais qui n'est pas de même nature, mais qui participerait quand même, sinon à l'attractivité, du moins à un meilleur lien ville-hôpital. C'est une mesure à laquelle certains d'entre vous savent que je suis personnellement très attaché. C'est le statut unique du médecin sur le territoire, quelle que soit son implantation, et d'essayer de trouver une formule qui marie les avantages du libéral et les avantages du salarié. Mais ce n'est pas exactement de la même nature que les autres mesures, mais on pense que ça participe aussi d'un ensemble désertification et lien ville-hôpital. Voilà, on a essayé de se concentrer sur des mesures concrètes.
Merci beaucoup, Benoît et Vincent. Je passe la parole tout de suite à Monica Stéphane pour l'Observatoire de la régionalisation. Alors.
Oui, on a travaillé un peu en consultation. J'ai une petite page qu'on a préparée avec Younes. Une des raisons était parce que j'étais un peu accabrée par un tas d'examens médicaux et que j'ai perdu un peu le temps. Donc, c'est un peu difficile parce que beaucoup de ce qu'on voulait proposer a déjà été dit. Donc, on va peut-être commenter un petit peu. Ça va beaucoup dans le même sens, mais on a aussi un certain nombre d'autres choses. Alors, d'abord, on se plongeait sur le contexte qui détermine donc ce problème des déserts et cette nécessité de refaire les choses. Alors, d'abord, le premier, c'est quand même les dépenses de santé. Ils augmentent. Et nous ne voulons pas travailler que pour les cotisations de santé pour nous et nos enfants par la suite ou encore des générations. Alors, donc, les dépenses de santé, il y a un problème. Et on sait qu'en France, par rapport à d'autres pays, on dépense beaucoup plus pour les soins au sens strict médical et pharmaceutique. Et on est parmi les derniers deux ou trois en fin de liste dans les comparaisons de l'OCDE et de l'Union européenne. Donc, pour la prévention. Donc, les dépenses de prévention en France ont moins que 2% des dépenses courantes de santé. Et ça, on est à la queue leu leu des pays qui ont un système de santé à peu près présentable. Donc, voilà, il faudrait, donc, on tire de là comme élément de contexte déjà, il va falloir revoir le courbet des soins remboursés pour pouvoir réorienter, si on ne veut pas s'écrouler sur la dette de santé, si on veut réorienter vers d'autres choses. Notamment la prévention et la coordination et toutes ces choses qui sont faites pas, qui sont actuellement pas faites parce que les gens n'accèdent pas aux soins dans les déserts. Alors, deuxième chose qu'on a constaté, qu'il faut prendre en compte, il y a une volonté chez les professionnels de transformer leurs pratiques, bon, quelles que soient les raisons et les difficultés. Il faut soutenir ça, il faut le formaliser et donc revoir, renforcer les structures existantes, etc. On en a déjà parlé. Et le troisième, c'est bon, il y a le vieillissement de la population hein, qui augmente donc les dépenses et tout ça. Et alors, ça, c'était le premier point encore. Dans le troisième point de contexte, on n'a pas les preuves de ce qui marche le mieux dans ce système, soi-disant, des soins premiers. Hein. Donc, c'est aussi en partie de la division de nos disciplines universitaires. On a des professeurs de médecine, on a des professeurs de sociologie. Quand ils se parlent, ils ne se comprennent pas très bien. Pour faire des masters communs, c'est très difficile. J'en ai l'expérience. Et dans d'autres pays, vous avez des professeurs de soins, de social care and health care. Ça n'existait pas en France. Vous avez des professeurs qui sont vraiment sur ce créneau entre hein, organisation des soins. Il y a des professorats pour ça. En France, on n'a pas ça. Donc, il y a peut-être à remonter très haut aussi pour revoir des problèmes de formation. Donc, en partant de ce contexte, on propose quatre axes de réflexion qui sont, donc c'est ce qu'on a déjà discuté, le transfert de compétences entre le professionnel pour dégager un peu le médecin et les réserver aux choses que les autres ne peuvent pas faire. L'exercice coordonné qu'il faut donc renforcer, ça a été déjà dit en partie. La valorisation, ça n'a pas été abordé, du rôle des EHPAD comme une chose très, très importante pour les parcours organisés des malades chroniques et pour les relations entre la médecine de ville, avec toutes ces professionnels différentes, et l'hôpital. Et la quatrième, la prévention. Voilà, donc quelques mots là-dessus. Donc le premier point qui a été donc déjà largement abordé, je voulais quand même dire, on a parlé de cette littérature internationale, oui, je la connais, les mesures incitatives ne marchent pas, on le sait, c'est un dossier de la DRES qui a exploré toute cette littérature. Elle dit aussi que les mesures obligatoire marche un peu mieux, mais généralement uniquement dans les pays un peu pauvres et dans les pays plus riches, ça fait des problèmes de qualité des services et les gens ne restent pas. Donc ça me fait revenir, c'est un peu une réponse déjà à Lisa, à ce qu'elle a dit, enfin une continuation. Il y avait le projet, je ne sais pas où c'en est maintenant depuis le Covid, que Macron avait lancé pour renouveler la réforme de 2016 de Touraine. Les groupements hospitaliers de territoire, qui était une idée que l'hôpital, le grand hôpital et le régional, il est au sommet. Il a des antennes dans les villes, dans les petites villes, qui eux-mêmes ont des antennes parfois même mobiles, parce qu'on peut très bien envoyer un bus dans les campagnes avec les soins. En Groenland, on fait ça avec les hélicoptères, on peut le faire en France avec les bus, et on peut rajouter la médecine l'aide des nouvelles technologies, téléconférence entre les différents participants autour d'un patient ou d'une personne isolée. Donc voilà, c'est ce qu'il y a pour les mesures incitatives, ça ne marche pas, et l'obligation pour nos pays, ça marche mal aussi. On peut toujours réfléchir sur certaines choses. Le risque est qu'on aura des jeunes médecins dans ces régions qui se font la main, et une fois la main faite, ils sont bons. Hein, ils iront ailleurs, donc on n'aura pas une très bonne médecine. Et autre chose qu'on tire de ce type de littérature, on sait que tout l'argent qu'on met dans la prévention, on n'a pas la preuve que c'est efficace parce qu'on ne prend pas vraiment assez en compte les déterminants sociaux de la santé et c'est difficile à gérer ça à partir du secteur de la santé. Sur la pollution de l'air, c'est pas l'hôpital qui peut gérer ça. C'est les industries, c'est les automobiles, tout ça. Donc, quels sont les liens qu'on peut faire là? Donc, je vais revoir ma liste, voir s'il y avait des choses à dire sur les quatre points qui n'ont pas été évoqués par les uns et les autres. Oui, il y a le point dans l'axe 2. Alors, l'axe 1, il est important, le transfert des compétences. Il nous semble que c'est la clé de voûte pour régler le problème des déserts médicaux. La clé de voûte. Maintenant, les structures qu'il faut construire autour et l'exercice coordonné, c'est donner les cadres qui vont avec. Donc, le cadre simplement pour faire un peu d'argent à donner, oui, on a fait des choses, mais ce n'est pas suffisant, ça ne marche pas. Et je peux vous dire de mes propres travaux, j'étais la première qui a fait une thèse sur le système de santé français à l'époque, ça remonte au début des années 80, et je l'avais fait sur les centres de santé intégrés comme nouvel mode d'exercice. Et tout ce que j'ai écrit il y a 40 ans, c'est exactement ce que vous lisez aujourd'hui pour dire pourquoi ça ne marche pas, tous ces réseaux, pourquoi il n'y a pas assez d'argent pour les maisons de santé pluridisciplinaires. J'avais prouvé, chiffres à la main, qu'il y avait un déficit structurel qui nécessitait des subventions extrêmement lourdes et qui, à l'époque, donnait des mutuelles ou des municipalités un peu à gauche, et maintenant, c'est passé à l'assurance maladie avec toutes ces aides, mais ça ne suffit pas. Donc là, on a un vrai os, un très grand problème qui nécessite peut-être de réintégrer l'hôpital, parce que là, on parle toujours de médecins généralistes avec les infirmières et les kinés, et je ne sais pas, mais la motivation de médecins professionnel, il est d'exercer la haute médecine ou être en contact avec quelqu'un qui est un grand spécialiste, et ça, l'hôpital est là. Donc, je pense qu'il faudrait reprendre ces projets qui sont un peu tombés à côté à cause des gilets jaunes et puis ensuite le Covid. Il faudrait peut-être repartir sur ce projet d'avoir une sorte d'organiser ces déserts médicaux et toutes ces structures formelles autour de la médecine première ensemble avec ce qu'a l'hôpital. Les médecins spécialistes peuvent très bien faire des consultations dans une petite ville en dehors de l'hôpital, une fois par semaine ici, et puis là, et puis ensuite on organise et on a des nouvelles technologies aussi. Donc ça, il ne faut pas oublier. Il faut moderniser un peu notre pensée qui nous est venue à l'origine peut-être de Québec. L'exercice coordonné, il y avait un point qui a été peu dit, deux points. C'est ce qui existe déjà et il est basé sur la confiance entre les professionnels qui participent. Je voulais juste rajouter, c'est un élément certainement très vrai et c'est un capital immatériel très précieux. Donc, il faut développer et préserver et construire là-dessus. Donc, ça va un peu contre l'obligation, mais ça se cultive. Donc, il y a un capital moral et immatériel qui existe déjà pour ce changement culturel chez les professionnels pour qu'ils collaborent ensemble et ça, il faut s'appuyer là-dessus et le développer. Et le deuxième élément dans ce chapitre, l'exercice coordonné axe 2, c'était un territoire de santé qui marche bien devait être basé sur les données de santé. Et ça veut dire qu'on va retrouver là tous les déterminants sociaux et toutes les collaborations avec d'autres secteurs qui ne sont pas le secteur de la santé. Et pour ça, il faut des pilotes. Alors, quels pilotes? Je suggère quand même fortement qu'on n'oublie pas qu'on a des agences régionales de santé où il y a des compétences et qui pourront peut-être être utiles. Ils ont prouvé à travers le Covid et tout ce qu'ils ont fait à ce moment-là pour aller favoriser les vaccinations et les dépistages et tout ça. Alors l'axe 3 qu'on n'avait pas encore évoqué, la valorisation du rôle des EHPAD. Et pour faire court, on s'était dit le problème principal et qu'ils ne sont pas médicalisés ou très mal. Ça fait beaucoup de morts dans les EHPAD pour le Covid. Donc, ça fait peut-être des morts pour d'autres maladies aussi. Et là, il y a vraiment l'occasion de travailler entre les liens entre la médecine libérale, parce que c'est les libéraux qui s'occupent des résidents des EHPAD, et l'hôpital où on les envoie quand on ne sait plus que faire ou quand ils sont en train de mourir. Et donc, ça nous a amené à l'idée qu'il fallait peut-être réfléchir sur qui est le vrai pilote des EHPAD. Alors, ce sont les collectivités locales, mais nous avons pensé qu'il fallait peut-être les rattacher la compétence pour pour les organiser, etc., aux agences régionales de santé pour qu'ils ne deviennent pas des mourards, des lieux de mort démédicalisés, comme on a vu dans une passée récente. Voilà. Et donc, le renforcement de la prévention, là aussi, juste un point que je voudrais rajouter, parce que ça va être discuté dans un autre workshop. Les politiques de prévention, apparemment, n'ont pas donné des résultats. Alors, quand vous lisez la littérature française ou internationale, vous trouvez ça un paquet. Ce n'est pas en disant aux gens de ne pas fumer qu'ils s'arrêtent à fumer, etc., etc. Donc, il faut que les axer beaucoup plus avec des spécialistes des déterminants sociaux de la santé. Hein. Et ça, c'est un point. Et le deuxième, c'est qu'il faut peut-être plus penser prévention à domicile, c'est-à-dire comment prévenir la chute des personnes en hiver, les personnes âgées ou dépendantes en hiver, suivre les gens pour qu'ils prennent leurs médicaments. L'observance a été un très grand thème pour le sida et le sidien, mais maintenant, c'est un problème pour les personnes âgées, donc pour les déserts médicaux, etc. Donc, il y a plein de travail. Je m'arrête là parce que il y a plein de choses que j'aurais voulu dire, mais ça sera peut-être mieux dans la discussion. Le dernier mot à rajouter, c'est peut-être oui, il y a des bonnes volontés. Oui, on a fait des choses. Oui, on sait pourquoi ça ne marche pas, mais on ne sait pas résoudre. Mais il faudrait des très grandes réformes. Et je pense que Macron avait lancé des missions qui avaient fait des tours de France. Il y a des écrits là-dessus, des rapports, pour aller à la fois réorganiser l'hôpital, pour intégrer tous ces acteurs locaux, pour faire quelque chose de cohérent sur les territoires. Et puis ça s'est arrêté, mais il faut reprendre le dossier, parce que ça, la relation avec les médecins hospitaliers, ça va répondre à l'envie des médecins qui ne veulent pas être toutes seules perdues dans une campagne et avoir 1 000 euros de plus à la fin du mois. Ils voudront avoir plus de contact avec les confrères scientifiques, entre guillemets. Et deuxième chose qui était dans ce type de réforme, qui n'a pas pu continuer, c'était une réforme de financement, ne plus par acte et par activité, mais par séquence de soins ou par, je ne sais plus comment on appelait ça, c'est-à-dire pour toute une série de soins qu'il vous faut, un prix, et les acteurs locaux de terrain s'organisent pour ensuite, après des critères à définir, à répartir ça. Ça les obligerait à collaborer et c'est peut-être plus efficace qu'un tas de petites subventions à tel salaire, un petit peu de plus pour telle ou telle chose. Voilà. Excuse-moi.
Rémunération au parcours, comme
comme
dit Brigitte Thévenin-Lemoine. À ce stade, je voudrais passer un court commentaire à chacun des think tanks. Stéphane, Jean-Paul, qu'est-ce que vous voyez comme zone, vous, entre les think tanks, les zones de convergence? Est-ce qu'il y a des points qui vous parlent d'un think tank à l'autre, Stéphane?
Ah. Oui. Sur la question de la coercition ou des formes, alors. Des formes d'interdiction d'exercer ou d'autres formes de contraintes telles que le conventionnement sélectif, ce qu'a voulu dire et ce qu'a dit d'ailleurs Joy est, je pense, excessivement important. Quand on raisonne formation de généraliste, on raisonne comme si les populations formées à la médecine générale étaient forcément destinées à exercer ce que l'on appelle par ailleurs médecin traitant. Le problème, c'est qu'on a un échappement déjà avant même de parler de coercition, avant même de parler de conventionnement sélectif, on a un très fort échappement, comme l'expliquait Joy. Il y a toute une partie de ceux qui sont formés à la médecine générale et pourtant la médecine générale et les départements de médecine générale des universités ont fait des efforts tout particuliers et pourtant ces professionnels formés échappent pour une part. Donc on ne dit pas qu'on récuse a priori toute forme de contrainte positive ou négative, mais qu'il faut tenir compte de la façon dont les individus votent avec leurs pieds et en l'occurrence échappe autant que possible, quand bien même, encore une fois, l'idéologie de la médecine générale est très présente dans les départements du même nom, ben, ils échappent malgré tout, les jeunes en question. Donc, il faut s'interroger sur le pourquoi. Autre sujet, je voyais que Marc mettait en avant la thématique des IPA. Ah, ça, c'est un de mes sujets préférés quand même et que l'on traite par ailleurs dans l'ISA et que l'on va mettre en scène. Les IPA, donc création de la loi de 2016, mise en œuvre par des textes de 2018, avec à chaque fois, vous vous en souvenez, on a eu un épisode récent, polémique avec les médecins, les syndicats de médecins ou le CNOM, donc une scénette qui se répète à chaque fois, mais peu importe, les pouvoirs publics ont passé outre, sont allés au bout de la logique, du moins en partie, parce que qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé, je crois qu'on en est à 4000 infirmières en pratique avancée formées. Alors là, Monica Stéphane évoquait un certain nombre de promesses de Ma Santé 2022. Celle-là, elle a été tenue sur le plan de la formation. Le problème, c'est que le système n'a rien fait, ou pratiquement rien fait, sauf quelques DG d'ARS particulièrement inspirés comme Christophe ou comme son homologue en PACA. Le système n'a rien fait pour l'essentiel pour intégrer ces personnels-là. Et on se retrouve dans une situation aujourd'hui où une bonne moitié des professionnels formés aux pratiques avancées infirmières n'exercent pas sur des pratiques avancées infirmières. Donc on a 2000-2500 personnels qui sont tout à fait capables d'aller sur le territoire, mais qui sont perdus, qui sont actuellement perdus. Alors soit on se débrouille pour les rattraper rapidement et leur trouver une façon de les implanter dans les services et en ville, soit ces professionnels-là sont perdus et je ne pense pas qu'on ait complètement les moyens aujourd'hui de laisser partir 2500 professionnels qui pourraient jouer un rôle de coordination sur les territoires. Donc il y a un petit sujet ou un gros sujet d'ingénierie de tout ça, d'assemblage. La main droite qui a fabriqué les formations n'a pas parlé à la main gauche qui devait les implanter dans les services hospitaliers ou sur le territoire. Et c'est quand même un problème majeur. Et on a, au-delà des dispositifs qu'on peut inventer ou qu'on peut imaginer, on a un problème majeur de conduite des réformes et d'articulation d'un certain nombre de réformes entre elles. Donc je n'ai rien contre tel ou tel dispositif particulier, mais j'ai toujours une crainte que le dispositif à main droite contredise ou soit contredit par ce qui va se déployer à main gauche.
Ce que dit Stéphane est fondamental, surtout perdre 2500 et surtout les décourager et en faire peut-être des adversaires de toute réforme. C'est ce qui est vraiment un scandale et le vrai sujet est sans doute là, Stéphane, tu as raison. C'est la conduite du changement.
On est complètement d'accord là-dessus. Jean-Paul.
Oui, je voudrais dire deux, trois éléments. Sur les territoires, nous, premièrement, il y aura des réponses adaptées à la réalité de chaque territoire. On ne traitera pas Saint-Flour comme on traite la Seine-Saint-Denis. Il faut qu'on réfléchisse.
Jean-Paul, est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que ça fait partie des choses qu'il y a dans les programmes? Dans les programmes électoraux, les candidats s'engageront à faire, c'est-à-dire avoir une équité sur le plan des territoires et pas simplement une égalité de traitement.
Tu sais très bien que moi, on met liberté, égalité, fraternité sur les frontons de la République, mais dans la réalité, il y a quand même des problématiques qui sont différentes. Et nous, on fait deux propositions qui vont dans le... c'est que Christophe Lelong pourrait développer ou réagir. La première, c'est que le modèle Danemark, on va publier prochainement en février une étude sur la comparaison du modèle danois, démontre qu'on a donné de la liberté à chaque territoire d'agencer leurs outils, c'est-à-dire que d'adapter, voire même de créer par certains outils particuliers. La deuxième, c'est de travailler sur le niveau interministériel. Alors, quelqu'un l'a dit, je crois que le problème de l'implantation des médecins, ce n'est pas uniquement un problème salarié, c'est vrai. Les malades votent avec les pieds, c'est vrai, mais les médecins ne vont pas aussi dans des endroits où on ferme des collèges, où on ferme des lieux de service public, où il n'y a pas de culture, parce que ce sont quand même des gens qui ont un niveau d'études où ils aspirent après d'avoir un certain niveau culturel. Et je me pose la question de savoir si le niveau de l'ARS est actuellement pertinent, qu'il ne faudrait pas avoir un niveau interministériel régionalisé, pas national, pour essayer de réfléchir à et définir une stratégie. Et enfin, troisième point, et je rejoins ce que disait Benoît là-dessus, il faut qu'on réfléchisse sur des statuts nouveaux, partagés, développés. Alors nous, on propose une formule qui est de dire que on pourrait très bien avoir des gens qui sont à temps plein, dans les hôpitaux notamment, mais qui soit avec un statut à temps partiel et ensuite un contrat passé avec l'hôpital ou avec d'autres structures pour développer, voire avoir 3 ou 4 employeurs. Il faut qu'on soit assez souple dans cette problématique pour essayer de faire du sur-mesure. L'expérience que j'ai connue, l'expérience en Auvergne n'est pas la même que celle que j'avais à la Paix de Marseille. Je pense qu'il faut essayer de se donner la possibilité que dans chaque territoire, on puisse adapter des réponses qui correspondent à la réalité. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Je reconnais que je connais, je suis souvent Saint-Flour, parce que c'est un peu ma région, mais vous avez les mêmes problèmes que si vous avez à Digne ou les problèmes à la Paix de Marseille.
À ce stade-là, je voudrais passer la parole à Marc Bourquin et ensuite à Christophe Lannelong. Marc.
Oui, merci beaucoup. Bon, moi, je comprends parfaitement qu'on dise que les situations sont différentes. Effectivement, quand il n'y a pas de TGV, qu'il n'y a pas de collège, etc. Certes, mais c'est ce que je mettais dans le chat, on ne va pas pouvoir attendre pour agir d'avoir réglé tous ces problèmes. Je pense que les pouvoirs publics ne savent pas faire des choses très compliquées. Si on attend d'avoir créé des conditions favorables dans l'ensemble des territoires avant de mettre en place une certaine régulation de l'installation, le système de santé solidaire, il aura disparu avant. Et par ailleurs, bon, j'étais en train d'écrire, mais je n'ai pas eu le temps de l'envoyer. Moi, je trouve quand même que... Évidemment, je comprends que les praticiens, les jeunes médecins, ils n'ont pas envie de s'installer là où il n'y a pas tout ça. Mais les pharmaciens aussi, ils ont cette situation. Et pourtant, est-ce qu'il y a des déserts pharmaceutiques? Non. Mais il y a une régulation de l'installation, assez stricte. Donc moi, je trouve que le système qui consiste, évidemment, il ne s'agit pas de dire à un jeune médecin ou jeune ou pas jeune, tu vas t'installer là, comme entre parenthèses, on le fait pour les enseignants, mais avec des effets délétères. Il s'agit simplement, moi, je soutiens tout à fait cette idée des 3 territoires. En gros, c'est ce que font les Danois, c'est-à-dire il y a les territoires où on ne s'installe pas, sauf s'il y a un départ, il y a des territoires neutres, et puis il y a des territoires où on aide, voire... on tarifie plus. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, j'allais dire, c'est vraiment le minimum. Et on pourrait le formuler autrement, en disant, il faut poser la question, il faut poser le principe d'une permanence des soins, d'une accessibilité minimum aux soins de tous les Français. Et il en découle un certain nombre de conséquences avec, et là, je rejoins l'idée que tout ne peut pas être identique sur tous les territoires, en disant, voilà, il faut que tous les citoyens puissent accéder à des soins en proximité, à des soins de premier recours. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut de la chirurgie cardiaque partout, bien sûr que non. Et il en découle une certaine répartition de la charge de travail et de la charge de la permanence entre la ville et l'hôpital, avec un curseur qui ne sera pas le même partout. Il y a peut-être des endroits, peut-être grâce à l'exercice mixte, où l'hôpital devra aller plus loin parce qu'il n'y a effectivement pas d'effecteur. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais il faut probablement aller plus loin. Et je pense que Il y a eu des propos pas inintéressants qui ont été tenus, y compris par le président de la République récemment, qui a dit, je trouve que c'était intéressant, qui a dit au fond, il faut sortir d'un système de paiement à l'acte et il faut aller vers une rétribution collective des offreurs de soins sur un territoire à partir d'indicateurs de santé publique. C'est-à-dire que il faut des choses précises. Il faut, si dans un territoire il y a énormément d'obésité, eh bien, il faut que les acteurs du territoire, une partie de la rétribution, pas tout, soit fonction de l'avancée de ce qu'on pourrait obtenir pour, par exemple, un indicateur, c'est il y a tant de cas d'obésité supplémentaires chaque année, eh bien, on le réduit de X %. Et plus on le réduit, plus la rémunération augmente. Enfin, c'est un peu simplifié, mais c'est un peu l'idée. Et puis, je crois qu'il y a un dernier point, je soumets à l'avis collectif, et c'est dans le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir. Au fond, est-ce qu'il ne faut pas complètement inverser la logique du ticket modérateur ? C'est-à-dire qu'au fond, la logique du ticket modérateur, c'est je vais, moi, citoyen malade potentiel, quand je demande un acte au système de soins, on me dit « Ah, vous payez un ticket modérateur ». Alors certes, il est couvert par les mutuelles, mais pas intégralement. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire au contraire que c'est quand on ne fait pas un certain nombre d'actes de prévention qu'on a un ticket modérateur ? C'est-à-dire inverser la logique du ticket modérateur et en disant « les actes de prévention, quand on va vers le soin, c'est gratuit, c'est quand on n'y va pas, quand on n'a pas fait un certain nombre d'actes de prévention qu'on a un ticket modérateur ». Alors tout de suite, il faut dire qu'on ne peut pas appliquer ça pour les personnes qui sont aux minima sociaux, évidemment, mais tout le monde n'est pas aux minima sociaux. Et si on faisait l'étude parmi les gens qui sont connectés, on verrait qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on a fait notre dernier dépistage pour telle ou telle pathologie, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on a fait notre dernier vaccin antitétanique, etc. Et moi, je trouve que c'est une piste qu'il faudrait peut-être creuser. Voilà, je ne veux pas être plus long. Et puis, il y a eu des échanges sur le rôle des EHPAD, mais je pense que vraiment les EHPAD, 7500 EHPAD sur le territoire, il faut les doter d'un minimum de ressources médicales et ça serait absurde de ne pas ouvrir cette ressource médicale aux personnes âgées du territoire. D'ailleurs, pas que la ressource médicale, mais bon, là, on parlait de la ressource médicale, mais aussi pour faire pour rompre la solitude, pour que l'IDE de nuit de l'EHPAD, elle puisse aussi sécuriser le maintien à domicile des personnes qui sont dans le village, etc. Et là, il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut avancer.
Oui, mais il faut transformer radicalement le rôle des médecins coordinateurs qui ne correspond à rien aujourd'hui. Enfin.
100% d'accord.
Alors, Christophe,
Moi je me retrouve vraiment bien dans tout ce qui a été dit, c'est-à-dire l'idée qu'un territoire c'est des besoins différenciés, que l'objectif doit être d'améliorer la réponse à ces besoins, de prendre en compte ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle, c'est-à-dire d'avoir une vision de la santé des habitants d'un territoire et sur lequel se mobilisent des équipes. Et je me retrouve aussi très bien dans tout ce qui a été dit sur l'idée que ces équipes, ça veut dire une nouvelle organisation des compétences. Ça veut dire, au-delà du partage immobilier dans les maisons de santé, une capacité à produire un service en équipe. Et ce service, à mon avis, il doit être d'abord un meilleur accompagnement, une meilleure éducation, un meilleur engagement sur la promotion de la santé. Et de façon à ce que les équipes...
Ah, il y a quelqu'un qui a un micro branché. Si c'est possible de couper vos micros pour qu'on puisse entendre Christophe.
Ah, ça y est, ça va mieux.
Parce qu'autrement, on a un bruit de fond qu'on n'arrive pas. Christophe, je te repasse la parole.
Il me semble que ce qui est très convergent dans les expressions des différents think tanks, c'est de dire que ces équipes mobilisées sur la responsabilité populationnelle, donc sur des indicateurs qui montrent l'amélioration de la santé de la population, elles doivent être aussi des équipes où il y a un bon partage des compétences, un bon assemblage des compétences. C'est un peu ce que les uns et les autres ont souligné, avec l'idée qu'il faut un référent ou un coordonnateur, avec l'idée qu'il faut faire monter en régime les pharmaciens et les infirmières, avec l'idée que ça doit servir à produire de nouveaux services de santé, c'est-à-dire des services d'accompagnement, des services d'éducation, des services qui permettent vraiment de mettre en acte la promotion et la prévention. Je pense par exemple à l'accompagnement sur la lutte contre le tabac ou aux maladies cardiovasculaires ou au diabète ou à des choses comme effectivement la santé des enfants, la nutrition, etc. Mais ce que j'ai trouvé un peu, et je m'en excuse par avance parce que cette question elle peut paraître un peu iconoclaste, ce que j'ai trouvé un peu décevant dans vos exposés, c'est que aujourd'hui cette coopération entre professionnels, elle est finalement assez limitée. Alors, c'est vrai qu'on a l'exemple de la crise Covid que vous avez évoqué, c'est-à-dire en disant, dans la crise Covid, on a un médecin qui donne le feu vert pour la vaccination, une infirmière qui fait la vaccination, la mairie qui a organisé des locaux, le pharmacien qui va intervenir pour faire lui-même ce type d'opération, etc. Mais si on sort de la crise Covid, les cas où il y a vraiment un travail coordonné, un travail d'équipe, pour la prise en charge du cancer, de l'hypertension, etc., du diabète, finalement, on n'a pas de modèle de travail en commun de ces professionnels de ville. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage, parce que finalement, si on avait ces protocoles de travail en équipe, c'est peut-être comme ça qu'on arriverait aussi à bien s'appuyer sur l'hôpital en proximité, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, l'exercice mixte, l'apport d'un hôpital de proximité pour soutenir ces équipes de soins primaires, c'est décisif. Voilà, donc ma question c'était, est-ce que c'est une question de passage de la rémunération au forfait? Est-ce que c'est une question de redéfinition d'indicateurs, d'objectifs pour des équipes pluridisciplinaires? Enfin, comment on fait prendre la mayonnaise du travail en équipe pour des activités cliniques?
Alors, qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Je crois que je vais dire une bêtise, hein, mais quand on est un entrepreneur, et il y a des entrepreneurs dans le domaine de la santé, que ce soit des infirmiers, que ce soit des élus locaux, que ce soit des médecins, des pharmaciens ou autres, qui dans les territoires sont capables d'organiser des choses, on est capable d'organiser cette... Et est-ce qu'on laisse le pouvoir aux entrepreneurs de terrain à le faire? J'ai une question sur la confiance qu'on peut donner à ces acteurs qui ont envie de monter, qui une maison de santé pluriprofessionnelle, qui un réseau coordonné de prise en charge du... La problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, on est souvent confronté à un système hypernormatif qui fait qu'au bout du compte, c'est pas facile. Et toi, qui as été directeur général de l'ARS, on a souvent partagé là-dessus. Il y a aussi le fait de pouvoir s'appuyer sur ces talents qui sont des talents qui existent dans les territoires. Mais est-ce que le cadre normatif général fait qu'on leur laisse toujours la place pour le faire?
Olivier, il y a une question importante qui a été évoquée, je crois, par Joël au début. C'est la lutte un peu permanente entre le jacobinisme et le girondisme, si on peut dire, mais accepter les initiatives, encourager les initiatives, ça veut dire qu'on est sur une république à la fois de l'innovation et peut-être de l'exemplarité. Mais ça veut dire aussi qu'on accepte pendant un temps donné qu'il y a des territoires où il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'initiative. Et ça, on ne peut pas, et ce n'est pas en mettant, comme tu le dis, des normes de plus en plus fortes qu'on pallie ça. Ça c'est l'illusion des bureaucrates, qui pensent qu'en mettant des normes, on pallie l'inégalité du dynamisme des territoires. C'est faux, c'est complètement faux, et c'est même contre-productif. Donc, il faut accepter, il faut mettre en avant ceux qui ont... Et je pense que le dynamisme, il y a une contagion positive du dynamisme sur les territoires. Et alors, reste évidemment... Moi, je n'étais pas d'ailleurs très favorable à ce qu'a fait au départ le président de la Saône-et-Loire, mais force est de constater que c'est quand même globalement, je pense, une réussite. En tout cas, c'est une réponse. Et donc, il faut accepter qu'il y ait la Saône-et-Loire, qu'il y ait d'autres types de réponses, mais ça veut dire que l'avenue de Ségur, on n'a pas un tableau Excel où il se passe la même chose dans toutes les cases. Quoi. Voilà, c'est pas très grave.
Joy et Stéphane, justement. Joy voulait intervenir.
Il y a une épreuve, qui est quand même assez cruelle. C'est de comparer à 5 ans d'intervalle, disons-le, l'idée que l'on pouvait avoir des MSP, pour reprendre cette catégorie-là, il y a 5 ans, et la réalité, pour reprendre ce que disait Christophe, des coopérations intimes qu'il peut y avoir au sein de ces structures. Mais si vous faites le même exercice décalé de 3-4 ans pour les CPTS, vous aurez la même conclusion. Entre le modèle décrit par Jean-François Thébault dans son rapport de 2016, si je ne m'abuse, ce que l'on en a dit quand le président de la République a repris la chose, a repris la balle au bon dans Ma Santé 2022 et la réalité de ces constructions, sans méconnaître le travail qui peut être fait sur les projets territoriaux, on a fondamentalement un problème de passage à l'échelle. Donc on a des innovateurs qui, dans certains cas, décrivent y compris des modèles expérimentaux intéressants et pour une raison qui tient à notre prisme jacobin et qui tient aussi à l'absence de modèle économique qu'il y a au fond derrière tout ça. Et faute de modèle économique, on fait vivre ça à coup de subventions et de subventions normées. Eh bien, les subventions normées, ça fabrique des dispositifs qui méconnaissent précisément la diversité des territoires, qui méconnaissent le fait que pour prendre en charge telle ou telle pathologie, ce qui semblait être le propos initial des CPTS, c'était pas de fabriquer un lieu où les professionnels viendraient se parler entre eux. C'est quand même une version un peu pauvre de la coopération. On avait des belles discussions avec Jean-Paul Ortiz à l'époque au HCAM sur la façon dont il décrivait sur le papier le déploiement possible d'une CPTS sur un territoire donné pour une pathologie donnée et pour une autre pathologie, on était évidemment sur une autre territorialité. Tout cela, on l'a rabattu dans des territoires normés avec, on se contente de se dire que quand les professionnels se parlent, pour aller dans la suite de ce que disait Christophe, quand les professionnels se parlent, on a une externalité positive extraordinaire. On ne peut quand même pas se contenter de cela, quoi. Voilà. Et la question du modèle économique, pour te faire plaisir, Olivier, est quand même, au fond, essentielle dans cette affaire. Quoi, parce que, tant que, et là, c'est des discussions qu'on a avec Gasser fréquemment, c'est quoi le modèle de l'entreprise libérale qu'il défend si vaillamment, mais qu'on attend encore un peu, quoi. Voilà.
Non, mais je pense que
pour compléter ce qui a été dit, puisque je crois que la parole m'avait été donnée après Stéphane, pour compléter ce qui a été dit, effectivement, alors je ne crois pas que ce soit uniquement pour que les médecins se parlent, et moi qui accompagne vraiment au quotidien quand même les professionnels de santé, que ce soit les kinés ou essentiellement les médecins généralistes qui montent les CPTS sur les territoires, c'est quand même aussi un peu plus que ça. Notamment, la première chose qui les obsède, puisqu'on va parler du terrain, c'est qu'ils proposent des solutions pour les patients sans médecin traitant. Et effectivement, il n'y a pas, j'ai bien aimé l'expression de république de l'innovation et de territoire sans leader, parce que finalement, on sait que les territoires sont profondément hétérogènes. J'aime aussi le cadre national dans lequel s'est placée cette loi, et puis les initiatives locales des acteurs qui font remonter finalement, qui font vivre des projets à travers à la fois la sensibilité de ce qu'ils observent sur le territoire et les besoins du territoire. Alors, c'est vrai, il y a des territoires où ils vont insister sur le dépistage des cancers, d'autres sur la prise en charge de l'obésité, d'autres sur les violences faites aux femmes. Mais quand même, il y a un cadre assez précis qui est proposé par l'assurance maladie via la CI. Et ils s'occupent des patients sans médecin traitant. Ils organisent une PDS efficace. Je veux dire, ce n'est pas simplement des médecins et des professionnels qui se parlent, mais il faut voir ce qu'ils font sur le territoire. Il faut voir les projets qu'ils mènent. Alors, effectivement, il faut voir l'évaluation dans quelques temps, s'il n'y aura pas les mêmes problèmes qu'avec les MSP. Les MSP, vous le savez, il y avait des coûts fixes très lourds avec des prêts à rembourser, des loyers à payer. Des frais de coordinateur, etc. Là, ce ne sera pas le cas, c'est hors les murs. Donc, c'est une organisation beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible. Et il faut voir l'enthousiasme des professionnels de santé qui mènent ça de manière bénévole et qui ont envie, du coup, comme on leur laisse une flexibilité possible, ils ont envie de mener à bien leur projet. Et en plus, il y a des indicateurs d'évaluation qui seront à proposer à l'ARS à des échelles de temps définies et assez précises. Mais le modèle économique, effectivement, doit être précisé sur la longueur et pour voir un petit peu ça. Mais là aussi, j'ai beaucoup d'autres exemples qui sont faits dans les CPTS et qui sont finalement très concrets et très motivants à la fois pour les professionnels de santé et pour les patients, bien sûr.
Alors, il y avait une question d'Asiac qui la pose depuis longtemps, enfin qui veut poser une question depuis longtemps. Asiac, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui vous êtes.
Oui, je vais me présenter très vite, mais de Saint-Cyril, je suis pilote Maya. J'ai travaillé sur la gestion de cas et les dynamiques d'intégration il y a 10 ans avec la CNSA et je travaille aujourd'hui sur les dynamiques de coopération, de coordination au niveau éthique, juridique, territorial. Et je suis pilote Maya et on parlait de pilotage tout à l'heure. Je suis fasciné par tout ce que vous dites et bien sûr tout cela me parle et en même temps désappointé. On a tenté de faire de l'intégration en France et puis on revient en arrière. Aujourd'hui, on refragmente et vous pouvez me contredire sans aucun souci, mais moi, j'observe au quotidien qu'on refragmente. On refragmente le sanitaire et le social, on refragmente le médico-social, on refragmente par pathologie, on retravaille les parcours même en refragmentant la prise en charge et l'accompagnement. Aujourd'hui, ce que j'observe, moi, c'est des politiques territoriales, des gouvernances territoriales qui se refragmentent et qui se cherchent de nouveau une espèce de direction commune sans pouvoir la trouver. J'irai même plus loin, entre les plans territoriaux de santé que sont censés porter les CPTS, mais qui ne font pas encore, les hôpitaux de proximité qui ont la responsabilité populationnelle de l'organisation du premier recours, notamment les plans de santé mentale, les plans locaux de santé, les contrats locaux de santé, la CFPPA sur la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, etc., etc., etc. On est en train de créer des contradictions, des oppositions. On est en train de recréer des micro-gouvernances sur les territoires qui se cherchent et qui va avoir le lead sur le financement de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, qui aura le lead sur les nouveaux EHPAD de demain, qui aura le lead sur la reconstruction de l'hôpital. On est dans une direction où on ne va pas du tout pouvoir réorganiser l'offre. Et mon sujet à moi, c'est comment réorganiser l'offre, à quelle échelle ? On l'a dit, c'est forcément une échelle territoriale. On a essayé de faire des réorganisations au niveau national. C'est très limité, très complexe. C'est une organisation territoriale. Je peux vous dire que je travaille sur la Bretagne, l'Aveyron et la région parisienne et aussi l'Alsace. Les ressources sont présentes. On gère l'offre, on tourne autour de l'offre, on tourne autour des marges que nous avons à disposition dans l'offre. Mais aujourd'hui, si je veux pouvoir travailler sur la réponse aux besoins de la population de l'Aveyron, j'ai en Aveyron potentiellement à peu près, on va dire, l'ensemble de l'offre qui est nécessaire à la prise en charge et l'accompagnement des personnes en Aveyron. Cependant, on manque d'organisation, on manque de mobilité, on manque de souplesse, on manque à la fois, et vous avez raison, à la fois d'expériences qui sont reproductibles sur les territoires et qui sont positives, mais on manque cruellement d'une gouvernance cohérente et d'une gestion financière cohérente des moyens alloués à ce qui pourrait être une gouvernance de la politique autonomie sur les territoires, comme le propose Dominique Libault, par exemple. La remédicalisation des EHPAD aussi, qui soit organisée avec les gouvernances actuelles. Et puis, dernier point, je suis chagriné par le fait qu'on n'évaluait pas les besoins en santé de la population. Ça fait des années années et des années que je travaille sur la question. J'ai bien des évaluations micro, des besoins qualitatifs et des problématiques de santé, mais je n'ai pas d'évaluation qualitative et quantitative sur une échelle suffisamment intéressante pour pouvoir mobiliser ou transformer l'offre. C'est un débat intéressant à l'aune de la création du Health Data Hub et de la capacité qu'on va avoir à récupérer ces données. Il faudra bien qu'on soit capable de savoir ce qu'on cherche et ce qu'on veut avoir. Et il ne s'agit pas juste de savoir combien il y a d'obèses dans une région, mais combien de personnes mangent mal parce qu'elles ont des moyens limités ou qu'elles n'ont pas accès à une nourriture de qualité, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là. Et puis, dernière chose, je pense vraiment que la question de la gouvernance est un sujet, mais je pense vraiment que nous pouvons travailler sur la concertation, le partage des informations, une fois qu'on a travaillé sur cette possibilité d'avoir des données de santé pertinentes, pour pouvoir tout simplement améliorer la prise en charge territoriale. Et puis, dernière chose, on a besoin d'un cadre, jacobin s'il en est, mais on a besoin d'un cadre. On a besoin d'un cadre parce que, de mon point de vue, les expériences positives qui ne sont pas standardisables et pas reproductibles sont vouées à créer fortement des inégalités, voire à créer des contradictions au sein d'un même territoire dans la prise en charge des uns et des autres. Merci beaucoup.
Merci, c'était très intéressant. Je voudrais passer la parole maintenant à Vincent, puis ensuite à Monica.
Excusez-moi. Oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit concernant les données, moi je pense que les données existent en France. On a même beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas les partager. Ce qui est à la CNAM reste à la CNAM. Ce qui est à l'adresse reste à l'adresse. En fait, on a tout ce qu'on veut. Il faut juste qu'on se donne les moyens de croiser des fichiers. Et pour rebondir sur le mot de normé qu'a utilisé tout à l'heure Stéphane, on a qu'à voir l'article 51, c'est devenu une véritable usine à gaz. C'est qu'en fait, on met d'abord en place un système qui est à peu près incompréhensible, où on fait rentrer dedans des initiatives qui sont par définition uniquement adaptables situation par situation. Donc je reviendrai sur le même mot d'évaluation. Il faut effectivement évaluer les besoins. Il faut aussi conditionner les aides financières à l'évaluation post, au moins pour une partie. Ça sert à donner de l'argent si on ne sait pas à quoi ça sert. Et enfin, il faut démédicaliser, à part des EHPAD, il faut dédicaliser le système français où tout repose sur les médecins et où il est impossible de monter quelque chose sans que les médecins, y compris dans une CPTS, dans une MPS, sans que les médecins soient au centre. Or, en dehors des EHPAD, moi, je pense que le monde médical français souffre d'un ethnocentrisme absolument désespérant parfois. J'ai été court, je laisse la parole à d'autres. Merci.
En tant que médecin, je partage. Monica. Ah, Monica, mute.
Je voulais juste, j'ai repris quelques mots que je voulais relever pour qu'on ne les oublie pas. Quelqu'un avait dit au début dans la discussion, on a un problème d'ingénierie parce qu'on a formé des gens et le système ne les a pas intégrés. Ça, c'est typique, on connaît ça très bien en sciences politiques, il y a une bonne volonté politique et puis l'implementation, comme on dit en français. La mise en œuvre ne suit pas parce qu'il y a un système qui ne gère pas d'autres gens que ceux qui décident. C'est ce qui est parfaitement normal. Donc, on appelle ça la path dependency, la dépendance au chemin. Vous avez beau faire toutes les bonnes réformes, bien ficelées et tout. Après, quand le système doit faire, on tombe dans les divisions, dans les trucs. Donc, je pense qu'il faut qu'on retienne pour ce qu'on veut faire là, ensemble, le terme qu'il y a un problème d'ingénierie. Ça, je crois que c'est important. Et on avait réfléchi dans le think tank sur la régionalisation des systèmes de santé, là, sur comment faire une gouvernance au niveau régional. Et on s'était dit, je crois que je n'avais pas eu l'occasion de le dire, je l'avais dit pour les EHPAD, mais un petit peu qu'il fallait les intégrer ou rapprocher au ARS, mais on avait dit surtout qu'il fallait, on a un problème d'échelon entre le jacobin et le territorial, et que la région était certainement le bon échelon, et d'autant plus que la santé, il y a une grande agence gouvernementale, il fallait une instance nationale où se réunissent périodiquement tous les directeurs des agences régionales de santé avec tous les présidents et présidentes des régions, et qu'on les oblige de cogiter pendant 2 ans comment ils vont faire pour accoucher d'une bonne proposition pour rénover cette gouvernance de santé avec ses bords autour social de la santé. Et il faudrait qu'on reproduise ça au niveau régional. Pourquoi les directeurs des agences et les présidents de région et quelques directions d'autres n'ont pas encore inventé cette gouvernance régionale de la santé? Ça, je crois que c'est à partir du concept qu'il y a un problème d'ingénierie que tout le monde a et qu'il y a un problème d'insérer la santé dans un tiroir qui a différentes difficultés dans le territoire et qui ne sont pas seulement des problèmes médicaux, qui sont des problèmes de toutes sortes. Il faut que ces gens-là qui sont en charge de la santé au niveau régional et qui sont c'était le problème des écoles. Là où il n'y a pas d'école et lycée, le médecin ne veut pas y aller. On comprend très bien. Moi aussi, je ne voudrais pas y aller. Mais ça, c'est un problème qu'au niveau régional peut être discuté entre tous ceux qui sont en charge de la région, que ce soit pour la santé ou autre chose. C'est là où il y a le truc. Et nous, on a eu cette idée dans le think tank au niveau national, mais ça devrait exister déjà au niveau régional. Ça résoudra peut-être des problèmes de la gouvernance régionale. Et ensuite, à partir de la région, ça peut aller plus sur le terrain. Donc, il y a tous ces échelons intermédiaires qu'il faut construire. Il faut faire cette ingénierie. C'est politiquement pas très passionnant, c'est très difficile à faire, mais ça, il faut le faire. D'autres pays, ils ont plus de choses pour ça. Et dernière chose, là, pour les indicateurs de santé par rapport auxquels il faut construire les services au niveau territorial, là, il y a évidemment un problème des données à intégrer. J'ai une expérience un peu du Japon et je sais que là-bas, les données, elles sont parfaitement sécurisées du point de vue de confidentialité. Mais quand vous êtes dans un hôpital, tout le monde a accès à votre dossier, y compris les infirmiers. Ici, ils n'ont pas forcément accès au dossier médical, ils m'ont expliqué. Et c'est ce qui paraît un peu bizarre. Quand j'étais accidentée au Japon, tout le monde arrivait avec une petite sorte de téléphone et notait tout ce qu'il y avait à noter. Il pointait vers le mur où il y avait un petit chip et tout était noté de partout. Quand j'étais répatriée en France, je ne pouvais toujours pas marcher. Les infirmières m'agressaient tout le temps en disant « Vous pouvez aller aux toilettes parce que vous avez l'épaule cassée. » Ben non, on ne peut pas aller aux toilettes quand on a aussi la hanche cassée. Ils ne savaient pas. Il fallait pendant une semaine que j'explique à tout le monde que j'avais une hanche cassée. Ils ne savaient pas parce qu'ils n'acceptent pas aux données. Et ça, c'était que pour soigner. Maintenant, vous imaginez les données sur la pauvreté, sur le surpoids, sur l'accès à la bonne air ou bonne alimentation. Ben, toutes ces données-là, elles existent, mais il faut trouver là aussi cette ingénierie pour les utiliser, pour construire le service et les collaborations par territoire qui correspondent à ce problème-là et qui seront différents d'un territoire à l'autre. Voilà. Ah oui, ouvrir les EHPAD, de les médicaliser plus et de les ouvrir ensuite aux gens qui habitent autour ou qui sont dans ces campagnes. Dans les campagnes, vous avez des EHPAD, mais vous n'avez pas de médecin. Alors, ça aussi, ça existe au Japon. Mais c'est généralement les médecins privés qui ont une petite clinique et qui servent toute la population. L'État est fortement présent, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, tous les médecins doivent respecter les honoraires, etc. Et le Japon, il a un problème de vieillissement et de dépopulation très, très grave des campagnes. C'est incroyable, c'est ce qui peut se passer dans le nord du Japon. Très souvent, cette petite clinique du médecin généraliste est le club social de personnes âgées. Ils viennent là-bas pour tout. Même pour se rencontrer, il y a 2-3 lits au cas où il y aura besoin d'un dépannage, etc. Et on pourrait très bien ajouter à nos EHPAD cette fonction-là, dans les régions très rurales, d'être à la fois le cabinet médical de premier secours, avec les infirmières et les kinés de premier secours, etc. Et quelques lits pour les gens qui, tout d'un coup, ont un gros problème et qui peuvent aller à l'hôpital que 3 jours plus tard. Ça, c'est une excellente idée, là, que quelqu'un l'avait dit, je ne sais plus qui, mais ça, c'est peut-être quelque chose aussi à retenir. En tout cas, je voulais surtout revenir sur cette ingénierie et faut faire travailler le directeur des agences régionales de santé avec le président de région et ainsi de suite.
Je pense que cette coordination entre les différents acteurs au niveau régional est importante. On a eu la chance avec Benoît d'animer une table ronde pour la FNEAD avec Marie-Guide Dufay, qui est la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je peux vous dire que mon opinion personnelle à la suite de ce débat, c'est qu'ils ne sont pas très mûrs encore au niveau des conseils régionaux.
En tout cas, cette présidente-là n'est pas mûre, oui.
Elle a beau être bourguignonne, ce qui est cher à mon cœur, mais là, il y a quand même, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'ambition.
Moi aussi.
Alors, juste une chose, écoutez, moi, j'ai trouvé les débats passionnants. Je crois que tout le monde peut s'accorder, enfin, à moins que vous ayez des opinions différentes, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On a l'habitude de respecter les horaires, parce qu'après, vous avez tous une vie de famille, des petits-enfants, un apéritif, une soirée. Tiens, ben voilà, Jean-Paul nous montre sa famille. Donc, il est 19h30. J'ai très envie de vous dire merci. Je trouve que cette première expérience de partage entre les think tanks est quelque chose de tout à fait fabuleux. On se retrouve pour la deuxième séance le 5 janvier prochain sur un thème dont on a parlé aujourd'hui, qui est la prévention, avec un sous-titre qui est « Sortir des incantations ». Ça fait des années, je crois que, je sais pas, j'ai toujours entendu parler de prévention dans ce pays. J'ai jamais eu une politique de prévention qui ait pu être mise en œuvre avec des critères de suffisamment satisfaisants pour qu'on puisse voir comment les choses avancent. C'est peut-être justement l'occasion de faire travailler toute cette matière grise qui est autour de cette table virtuelle et qui est hautement... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté concret et pratique des propositions aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire pour faire en sorte que les politiques se saisissent de ces sujets et fassent qu'on tire le débat des élections présidentielles vers le haut, en particulier en prenant conscience que la santé, ce n'est pas une question technique, mais c'est vraiment une question sociétale. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. On se retrouve le 5 janvier prochain, 18h, la prévention. Et ça va être passionnant. Entre-temps, on fera circuler à chacun des think tanks les notes qu'on a pu prendre pour que vous les validiez. Vous avez le droit d'y apporter toutes les modifications que vous voulez en ce qui concerne votre partie, du moins. On pourra ensuite la diffuser et tout le monde pourra la diffuser aussi largement que possible. Merci à tous et à très vite.
Merci Olivier. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne soirée.